France Musique.
Qui s'assoit à côté de moi, Jean-Max Collard, notre chroniqueur des arts occupés.
Je vous trouve pas correcteur.
Mais un jour peut-être. Vous êtes trop bronzé, je trouve.
Écoutez, c'est la bête somme.
Ah oui, vous êtes allé voir maman.
Ma tante.
Votre tante. Vous êtes d'où dans la Somme?
J'ai un peu de famille comme ça, Saint-Valery-sur-Somme.
Ah, mais c'est pas mal, c'est beau
Saint-Valery-sur-Somme.
Jean-Max, on va pas parler de nos racines.
Non.
Mais vous allez nous parler objectivement, ou en tout cas tenter de nous parler objectivement, du plasticien Daniel Buren.
Objectivement. Alors, je sais bien, Vincent, que les choses de l'art sont affaires de subjectivité, de goût personnel, ou comme le disent certains candidats de The Voice, de ressenti au niveau du vécu. Mais je voudrais dire aussi que loin de tomber dans le relativisme général des goûts et des couleurs, il faut aussi savoir être objectif, parfois même en esthétique. Et il faut bien admettre que l'importance d'un artiste peut aussi être reconnue en toute objectivité. C'est le cas d'un Botticelli, d'un Rubens, de Picasso. Eh bien, qu'on le veuille ou non, l'artiste Daniel Buren est objectivement l'un des plus grands artistes de la deuxième moitié du XXe siècle et de ce début de XXIe.
J'imagine que vous allez quand même, Jean-Max, nous en donner quelques explications.
Alors, je prendrai surtout exemple sur deux expositions magistrales de Buren, visibles actuellement pour le public. Et je commencerai par son intervention plastique à la Fondation Vuitton, intitulée L'Observatoire de la Lumière, qui ouvre ce mercredi. L'artiste français a toujours aimé se mesurer aux architectes. C'est un sport de combat favori de l'artiste. On se souvient qu'en 1971, il avait occupé avec une grande bande de tissu ornée de rayures alternées de 8,7 cm, c'est l'outil visuel de Buren, il avait occupé le centre du musée Guggenheim, construit par Frank Lloyd Wright à New York, et ce geste était tellement fort, tellement évident, que des artistes américains, Dan Flavin en tête, jaloux de se voir éclipsé par un petit français conceptuel, avaient exigé et obtenu le renvoi de Daniel Buren et de son œuvre hors du musée. Alors à la Fondation Vuitton, c'est une autre rencontre de choc qui s'organise entre d'un côté Buren et de l'autre l'immense architecte américain Frank Gehry qui a construit le vaisseau de verre de la Fondation Vuitton. Daniel Buren y fait une intervention éphémère et in situ. C'est lui d'ailleurs qui réinvente le terme d'in situ au milieu des années 60 quand il quitte définitivement son atelier pour intervenir directement dans des espaces publics ou des lieux d'art. Or, travailler in situ pour Buren, ce n'est pas seulement travailler sur place, c'est aussi travailler à propos du lieu et au sujet du lieu, c'est-à-dire de l'éclairer, de le regarder. Alors, le coup de force de Buren à la Fondation Vuitton, c'est qu'il n'expose pas à l'intérieur de la Fondation, dans ces espaces difficiles. Et au fond, c'est une manière de critiquer déjà Gehry, de dire combien l'architecture de Frank Gehry rend la vie dure aux artistes. Mais Buren, on va dire, attaque Gehry sur l'extérieur, c'est-à-dire là où l'architecte est le plus fort, le plus lyrique, le plus visible aussi. Buren fait donc appliquer sur les 12 grandes voiles de verre des touches de couleurs différentes, du bleu, du rouge, du vert. Il colorise ainsi tout l'extérieur du bâtiment et du même coup, il parvient à s'approprier complètement l'architecture de Gehry, à la co-signer en quelque sorte. C'est un coup de maître, il faut le dire, par lequel Buren magnifie et sursigne avec juste des touches de couleurs, c'est un jeu de peintre, une architecture déjà très impressionnante. Et par ce jeu de verre coloré, Buren s'infiltre et s'invite malgré tout dans les espaces intérieurs de la Fondation. C'est magistral. Alors on comprend après cela que le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles ait invité Buren à nous montrer la liste des artistes qui l'ont marqué au cours de son existence, on va dire de Manet à aujourd'hui. Dans cette fresque, il y a des amis, des proches de l'aventure radicale des années 60, par exemple le conceptuel Sol Lewitt ou le minimaliste Karl André. Il y a des élèves de Buren, il y a des références, Manet, Antaille, Matisse évidemment. Il y a des rencontres marquantes et d'ailleurs inattendues, comme Chagall. Je ne m'y attendais pas. Il y a aussi des ruptures esthétiques, notamment quand on compare l'œuvre de Buren à celle de ses professeurs de peinture des années 50. C'est donc un paysage assez autobiographique, presque sentimental, que nous livre ici Buren. Mais ce qui est remarquable dans cette fresque, le titre de l'exposition, c'est le mode d'accrochage complexe et alterné des œuvres. C'est surtout la toute première salle, absolument radicale, puisque presque entièrement vide. Il n'y a sur le mur que du papier peint de bandes alternées de 8,7 cm, et par endroits, les marques vides, les traces blanches, les fantômes de toutes les œuvres que l'on verra ensuite dans l'exposition. De cette manière, Buren ne nous montre pas seulement son paysage personnel, il nous montre son esthétique, sa manière de faire. Il nous donne en quelque sorte sa méthode, et j'ai envie de dire en toute objectivité.
C'est du 100%. Là, je vous sens très, très, très enthousiaste pour Daniel Buren. Une fresque jusqu'au 22 mai à Bruxelles. Et puis à partir de ce mardi 11 mai, c'est-à-dire à partir de demain, sur et dans la Fondation Vuitton à Paris. Merci Jean-Max Collard. Si vous retournez à Saint-Valery-sur-Somme, vous saluez Tata Collard.